Ah, si je voyais un miracle, je croirais. C'est ce que me disait souvent un technicien qui travaillait sous mes ordres il y a longtemps, et avec qui on discutait parfois des choses de la foi. Ah, si je voyais un miracle, je croirais. Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr parce que nous voyons dans l'Évangile beaucoup de gens autour de Jésus qui en ont vu des miracles et qui n'ont pas cru. Et nous allons, ce matin, réfléchir un petit peu à ce problème. Nous sommes arrivés au chapitre 12 de l'Évangile de Jean. Et je vous ai déjà dit que ce chapitre 12 constitue une transition à l'intérieur de l'Évangile. Ça fait déjà un certain temps qu'on se penche sur cet Évangile. Ça commence par un prologue bien connu. Et après, du chapitre 1, verset 19, ou quelque chose comme ça, jusqu'au chapitre 12, vous avez la première partie de l'Évangile qu'on appelle parfois le livre des signes. On l'appelle comme ça parce qu'il est constitué autour de signes de Jésus, de miracles de Jésus, qui provoquent des discussions avec des juifs, avec des individus ou des groupes. Et on a vu qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'Évangile, ces débats deviennent de plus en plus envenimés. La tension monte, et c'est cette tension-là qui va conduire à la passion. Dans ce qui suit, à partir du chapitre 13, la tonalité change complètement. On aura les derniers discours de Jésus, mais cette fois-ci réservés aux disciples, et puis les événements de la passion et la résurrection. Donc aujourd'hui, nous allons clore ensemble le livre des signes. Et je vous invite à lire avec moi, au chapitre 12, à partir du verset 37. Et comme j'ai l'habitude, je voudrais vous demander de vous lever pendant la lecture en signe de respect pour la parole de Dieu. Bien qu'il avait fait de tels signes devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Afin que soit accomplie la parole du prophète Ésaïe qui a dit: Seigneur, qui a cru à ce qu'il a entendu de nous? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu croire, comme l'a encore dit Ésaïe. Il leur a aveuglé les yeux, il leur a endurci le cœur, afin qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas avec leur cœur et qu'ils ne se convertissent pas. Je les aurais guéris. Ésaïe a dit ces choses parce qu'il a vu sa gloire et qu'il a parlé à son sujet. Cependant, même parmi les dirigeants, beaucoup croyaient en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne l'admettaient pas pour ne pas être expulsés de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jésus s'écria: Celui qui croit en moi, il ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Tout comme celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne saisit pas mes paroles, il a déjà son juge. C'est la parole que j'ai dite qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de moi-même, c'est celui qui m'a envoyé, le Père qui m'a donné un ordre concernant ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Je sais que son ordre, c'est la vie éternelle. Ce dont je parle maintenant, j'en parle comme le Père me l'a dit. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez remarqué, je crois, que notre texte se compose de deux blocs assez distincts, assez faciles à voir. La première partie, qui va du verset 37 au verset 43, elle constitue une réflexion de Jean, qui est confronté à l'incrédulité des Juifs et qui réfléchit comment comprendre cela. Et puis, la deuxième partie, du verset 44 jusqu'au verset 50, elle nous livre le dernier discours public de Jésus que nous rencontrons dans l'Évangile. Alors, ce discours, il reprend un certain nombre de thèmes que nous avons déjà vus, qui apparaissent pour certains déjà dans le prologue et pour d'autres qui apparaissent au fur et à mesure qu'on avance dans l'Évangile. Je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus, Je vais simplement surligner quelques points. Premièrement, ce qui ressort assez clairement de ce dernier discours, c'est cette identification à certains égards entre Jésus et le Père. Jésus dit, celui qui croit en moi, il croit au Père. Et celui qui me contemple, il contemple le Père. Donc il y a une unité très forte entre les deux. Mais la suite nous montre qu'il ne faut pas commettre l'erreur de prendre Jésus, en quelque sorte, pour la face visible du Père. Ce n'est pas ça, parce que les deux sont distincts. C'est le Père qui envoie, et c'est le Fils qui va. C'est le Père qui donne l'ordre de parler, et c'est le Fils qui exécute. Donc il y a distinction de ces deux personnes, mais à certains égards, il y a superposition. C'est quelque chose que nous avons vu dès le prologue de l'Évangile, et qui affirmait de manière assez forte tout au long de cet évangile. La deuxième idée ici, elle nous conduit de nouveau vers la première partie de ce texte que nous avons lu, c'est l'idée du jugement. Ce n'est pas une affaire neutre que de croire en Jésus, parce que celui qui croit Jésus, il croit le Père. Et ne pas croire, c'est ce... s'exposer à un jugement. Alors Jésus prend soin de dire, attention, je ne suis pas venu pour le jugement. Et c'est vrai, cette première venue de Jésus-Christ n'était pas en vue du jugement, c'était en vue du grand sauvetage. Il allait poser le fondement du salut, objectif. Mais, ne nous y trompons pas, lorsque Jésus-Christ reviendra, et nous croyons qu'il reviendra, à ce moment-là, ce sera pour juger les vivants et les morts. Je m'arrête là pour la deuxième partie de notre texte, parce que je voudrais me concentrer sur la première partie qui est difficile à certains égards. Jean part du constat que Jésus suscite beaucoup d'incrédulité. Beaucoup de gens qui sont là, qui ont vu ces miracles, et nous avons vu toute une série de miracles assez époustouflants, ces gens-là ne croient pas nécessairement. Il y en a qui résistent. Et Jean réfléchit et il se demande pourquoi. Comment est-ce possible? Et il nous donne deux citations de l'Écriture. Cette réflexion le conduit en fait à étudier les prophètes. Et il y trouve une réponse à son problème. Et je voudrais souligner trois aspects qui me semblent liés à cette incrédulité et qui apparaissent dans l'Écriture. Et ils ne sont pas tous très faciles à saisir. La première, c'est la plus simple, me semble-t-il. C'est un verset que nous avons déjà entendu tout à l'heure, au moment de la Sainte Cène, citation d'Ésaïe, où il nous est dit, « Seigneur, qui a cru à ce qu'il a entendu de nous, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Ésaïe pose cette question à Dieu. Vous savez, Ésaïe a été envoyé au peuple avec un message difficile, un message de jugement. Et Ésaïe fait le constat de l'incrédulité du peuple. On ne le croit pas, on le méprise, on se moque de son message. Et il demande à Dieu, mais qui a cru en ce qu'il a entendu de nous? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Parce que voyez-vous, le peuple qui résiste là, c'est ce peuple même à qui le bras du Seigneur a été révélé. Ça, c'est un langage qui nous renvoie vers l'Exode, où Dieu, avec puissance, avait fait sortir le peuple d'Égypte. Déjà les 10 plaies, c'est époustouflant. Et après, la traversée de la mer des gens. Et après, le Sinaï, la révélation du Sinaï. Aucun peuple dans l'histoire du monde a eu de telles révélations de la part de Dieu. Aucun peuple n'a été tellement bichonné par Dieu. Et ce peuple-là, à qui le bras du Seigneur a été révélé, ce peuple-là manifeste l'incrédulité la plus tenace. Et c'est une constante dans l'histoire du salut. Ça commence dans l'Exode et ça se poursuit tout au long de l'histoire du salut. Et en quelque sorte, Jean se met sur les épaules d'Ésaïe, qui lui-même se met sur les épaules de Moïse pour constater ce constat éternel, il ne croit pas. Dieu se montre avec puissance à leur égard et il ne croit pas. C'est une constante. Et en quelque sorte, ce que vit Jésus n'est que la prolongation de cette même tendance, quelque chose qu'on a vu tout au long. Cette incrédulité est là dès le départ, et en quelque sorte, elle culmine quand Jésus vient. Il n'y a donc pas de surprise, en quelque sorte. Le constat d'Ésaïe, le constat de Moïse, c'est Jean qui doit le refaire face à Jésus. Nous observons toujours cette même difficulté de croire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point me semble plus difficile, plus délicat. C'est pour ceux-là qui n'ont pas pu croire, comme l'a encore dit Ésaïe. Et là, il nous donne encore une citation d'Ésaïe, qui se trouve cette fois-ci, non pas au chapitre 53, mais au chapitre 6. Je vous ai donné ce texte. Malheureusement, tous mes textes sont un peu tronqués. Ésaïe chapitre 6, est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Pour ceux qui connaissent un peu le livre d'Ésaïe, c'est encore un texte célèbre du livre d'Ésaïe. C'est le texte où Ésaïe accepte une mission. Ce texte s'ouvre sur une vision assez impressionnante d'Ésaïe. Ésaïe voit Dieu sur son trône, entouré d'êtres, a priori angéliques, les séraphims, et il panique. Il réalise, il dit, « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures, je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi. » Et il s'attend à mourir, parce que Dieu ne peut pas voir, l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Et c'est là qu'un de ses séraphims s'approche de lui avec une braise prise sur l'autel. Il purifie Ésaïe de manière qu'il puisse se tenir devant Dieu. Et puis Ésaïe entend Dieu poser la question, « Qui enverrons-nous ?» Il a dit, « Me voici, envoie-moi. » Et là, Dieu va le charger de cette mission. Et tenez-vous bien. Écoutez bien, vous ne comprendrez pas. Regardez bien, vous ne saurez pas. Abrutis le cœur de ce peuple. Rends insensibles ses oreilles. Englue ses yeux pour pas qu'il voie de ses yeux, qu'il entende de ses oreilles, qu'il revienne, que son cœur comprenne et qu'il soit guéri. Dieu charge Ésaïe d'une mission d'abrutissement, si j'ose dire. Son rôle, c'est d'apporter des paroles qui vont endurcir le peuple. Ces paroles de jugement qu'il doit porter auront l'effet, et c'est prévu, d'endurcir ce peuple. Nous sommes là dans une logique de jugement. Et nous voyons là quelque chose qu'on voit ici et là dans l'Écriture, à savoir que Dieu décide que maintenant c'est fini. Vous pouvez dire non à Dieu, une fois, deux fois, peut-être trois fois, mais il vient un moment où Dieu dit, d'accord, je te prends au mot, ça sera non. Et là, c'est fini. Nous voyons ça, l'exemple type même de ça, c'est Pharaon. Pharaon, lors de l'Exode, qui ne veut pas laisser partir ce peuple, et qui se braque, et dit non, non. Et Dieu l'endurcit. Et à la fin, Pharaon ne peut pas dire autre chose que non. Il est enferré dans ce non. C'est quelque chose d'assez horrible, mais qui est affirmé dans l'Écriture, et je crois que nous n'avons pas le droit de passer par-dessus comme si ça n'existait pas. Alors, je vous ai annoncé un troisième point, il est encore un peu plus difficile à avaler. Je reviens à cette première citation que nous avons déjà vue tout à l'heure. Alors là, la partie importante manque. En fait, ce que j'insiste ici, c'est que c'est pris de Ésaïe 53. Alors, je n'ai pas besoin de vous lire le texte, on l'a lu tout à l'heure, lors de la Sainte Cène. Ésaïe 53, vous l'avez entendu, c'est un texte qui nous parle d'un personnage un peu mystérieux dans l'Écriture, le serviteur souffrant. Quelqu'un qui est frappé pour les fautes d'autres, qui porte en son corps le malheur des autres, qui est victime expiatoire, en quelque sorte, pour les autres, et qui est anéanti. Et les chrétiens qui ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ils ont tout de suite compris de qui il est question. Et pour nous, c'est naturel d'y voir Jésus-Christ. Ça tient, c'est logique. Et j'ai même un des textes préférés, je pense, des chrétiens dans l'Ancien Testament, tellement c'est beau, tellement ça énonce clairement la doctrine du salut que nous proclamons. Mais il ne faut pas oublier que pour les Juifs, ça n'allait pas du tout de soi. Les Juifs attendaient le Messie. Et le Messie, c'était quelqu'un de glorieux, victorieux, un libérateur, quelqu'un qui allait en finir avec l'oppression. Et là se pointent les chrétiens et disent, mais les deux ne font qu'un. Le Messie d'Israël, c'est celui que vous avez cloué à la croix. Le grand libérateur, c'est le serviteur souffrant. Les deux ne font qu'un. Et pour nous, ça va de soi. Mais pour les Juifs, c'était un scandale. Impensable. Et aujourd'hui encore, c'est impensable. Il n'y a plus grand monde chez les Juifs qui croient au Messie, mais ceux qui croient, ils n'acceptent très jamais. Je crois que Jean nous renvoie vers ces textes parce que Jean il vit vers la fin du 1er siècle où le divorce de l'Église et de la synagogue est consommé. Voyez-vous, au départ, si vous voulez, l'Église était une petite secte juive, un petit mouvement 100% juif au sein du judaïsme. Mais peu à peu, les choses ont changé. Et à un moment donné, c'était plus tenable et les deux ont divorcé. Et aujourd'hui, c'est le constat que nous faisons. Et ce n'était pas facile pour les apôtres de vivre ça. Et si vous lisez l'Épître aux Romains, vous verrez Paul agoniser à ce sujet. Et le mot n'est pas trop fort. Chapitre 9 jusqu'à chapitre 11, Paul, il est livide. Il lutte avec ça. Et il va nous dire une chose qui va aussi nous comprendre ce qui se passe. Alors là, j'ai une citation qui est prise donc de Romains 11, verset 11, qui résume, me semble-t-il, assez bien son idée. Il dit, « Je demande donc, les Juifs ont-ils trébuché pour tomber tout à fait ?» Ça, c'est son angoisse, que c'en est fini pour le peuple de Dieu. Et il dit, « Jamais de la vie, mais, du fait de leur faute, le salut a été donné aux non-Juifs. » Et un peu plus loin, verset 15, il dit, « Leur mise à écart a été la réconciliation du monde. » J'aurais jamais osé dire une chose pareille si je n'avais pas l'autorité de Paul derrière moi. Il semblerait que l'incrédulité massive des Juifs fait partie du plan de Dieu, parce que c'est elle qui a permis que le salut atteigne les nations. Mais rendez-vous compte ce que je suis en train de dire. Il a fallu que les Juifs ne croient pas pour que nous ici puissions croire. Alors comment se fait-il? Comment on peut comprendre? Historiquement, nous voyons que c'est juste. Si vous lisez le livre des Actes, vous voyez c'est exactement ce qui s'est passé. Paul, à chaque fois qu'il est allé dans une ville, le premier endroit où il va, c'est la synagogue. Et avec une belle régularité, il se fait jeter. Et c'est parce qu'il se fait jeter qu'il va vers les autres. Historiquement, c'est vrai, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu imaginer autrement? Moi, j'aurais bien vu ça. Voyez-vous. Utiliser les Juifs comme vecteurs de l'Évangile dans la diaspora, vous imaginez? C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que ça a pu se passer. Le plan de Dieu était autre. Comment peut-on comprendre cela? Il me semble qu'on ne trouve pas une explication nette dans l'Écriture. J'en ai pas trouvé, en tout cas. Peut-être c'était pas possible parce que le judaïsme était finalement un mouvement assez replié sur soi. Aujourd'hui même, les Juifs ne font pas de prosélytisme. Ils veulent convertir personne. Ils sont contents de leur truc, mais ils n'invitent personne à les rejoindre. Et même si vous voulez vous convertir, c'est relativement compliqué. Donc, loi alimentaire, par exemple, les coupes du reste du monde. C'est le but même de ces règles. Donc, peut-être, il n'était pas comptable que les Juifs soient le vecteur, parce que tout le mode de fonctionnement n'était pas approprié. Je ne sais pas si c'est ça. Peut-être il y a autre chose. Peut-être c'est que on voit souvent dans l'Écriture Dieu inverser les choses. Il ne fait jamais comme on aurait fait. dans une culture où l'aîné porte l'espoir de la famille, presque systématiquement, Dieu choisit le deuxième, jamais le premier. Il ne choisit jamais le plus grand, le plus beau, il prend le plus dernier. Et peut-être fallait-il que Dieu inverse les choses, que les premiers seraient les derniers, que ceux à qui l'Ancien Testament a été convié seraient les derniers à accepter le salut en Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est ça, peut-être il y a d'autres choses. Il me semble que l'Écriture ne donne pas une réponse nette à cette question-là. Mais ce que je crois discerner de manière certaine, c'est qu'il a fallu que c'était le projet de Dieu, que c'était le plan de Dieu, que le peuple juif ne croit pas, pendant un temps au moins. Il y a de l'espoir, et Paul exprime un espoir, mais pour l'instant, nous sommes toujours dans ce régime-là. Alors, évidemment, si je vous dis ça, ça pose d'énormes questions. Ça pose d'énormes problèmes. Parce que dire que l'incrédulité d'un groupe entre dans le plan de Dieu, ça nous choque. Ça voudrait dire que nous ne sommes pas libres de croire. Et surgissent immédiatement ces grandes questions. La souveraineté de Dieu, d'un côté, et de la liberté de l'homme. J'ai déjà traité de ce problème ici, mais je pense que ce n'est pas inutile de redire certaines choses à cet égard. Ce qui est certain, c'est que dans l'Écriture, tous les auteurs bibliques qui touchent de près ou de loin au problème affirment que les deux choses sont vraies. Que Dieu est totalement souverain, il contrôle tout ce qui se passe. Rien ne se passe sans son accord. Et de l'autre côté, que l'homme est responsable de ses actes. Et que jamais il pourra se défausser sur Dieu et dire « c'est Dieu qui a fait ça ». Tous les auteurs bibliques, quels qu'ils soient, affirment les deux. Ils sont tous ce qu'on appelle des compatibilistes. Les deux doctrines, quoique en apparence, parfois un peu contradictoires et en tension, sont compatibles. Tous affirment les deux. Et nous sommes invités à affirmer les deux vérités. Si vous sacrifiez l'une des deux, vous êtes tout faux. Vous n'êtes plus sur un terrain biblique. Alors comment on peut comprendre ça? Je vous livre la manière dont je comprends personnellement. Peut-être c'est erroné, en quel cas je m'excuse, je n'ai pas su faire mieux. Je crois qu'on commet une erreur en mettant les deux choses exactement au même niveau. Que Dieu est souverain, absolument souverain, qu'il règne sur l'univers, il faut l'affirmer sans l'ombre d'un doute. C'est absolument vrai. Vous ne pouvez pas enlever une pierre précieuse de sa couronne sans que la construction biblique s'effondre. La souveraineté de Dieu sur tout est le fondement de tout. Et vous l'acceptez tous, en fait, quand vous priez, quand vous demandez à Dieu la conversion de telle personne. Vous êtes en train d'affirmer que Dieu est souverain même sur la foi des personnes. En ce qui concerne la liberté de l'homme, je pense personnellement qu'elle est tout aussi réelle, mais elle ne se situe pas au même niveau. Je vais vous donner un exemple. Un exemple de ma liberté personnelle. Dans notre famille, en général, c'est moi qui fais les courses, souvent le samedi après-midi. Et je vais donc au supermarché avec ma liste de courses, avec mon porte-monnaie. Je suis libre d'acheter ce que je veux. Enfin, j'ai quand même ma liste. Et si je ne prends pas ce qui est sur la liste, ma femme va me gronder. Mais, mis à part ça, je suis libre. Je peux prendre des choses en plus. Je suis libre. Enfin, pas tout à fait. Parce que si je vais dans ce centre commercial et je vois une superbe voiture qui est présentée là, je ne suis pas libre de la prendre. Je ne peux pas me l'offrir. Je n'ai pas assez de sous. Mais à part ça, je suis libre. Enfin, presque. Parce que j'ai lu une fois une étude comme quoi, quand on fait les courses alimentaires en ayant le ventre vide, on achète plus de choses. C'est mon ventre qui manipule. Mais à part ça, je suis libre. Enfin, pas tout à fait. Parce que peut-être la veille au soir, j'ai vu la pub à la télé. Et j'ai vu tel produit, et j'ai envie de l'acheter. Je me fais manipuler par la pub. Et oui, ça marche, sinon ça fait longtemps que la pub n'existerait plus. Donc je me fais manipuler aussi par la pub. Mais à part ça, je suis libre. Enfin, presque. Parce que peut-être j'avais envie d'acheter telle chose et je ne la trouve pas. Parce qu'on ne la vend pas là. Ou parce qu'elle est épuisée. Ou que sais-je. Donc, voyez, je suis libre. Mais ma liberté n'est pas absolue. Ceci étant dit, j'ai réellement une liberté. Je peux acheter telle ou telle chose. Je peux acheter des 8 d'Abix plutôt que des Smax. Cette liberté est entière. Mais dire que je suis totalement libre de mes gestes, de mes actes, de mes pensées, je pensais méconnaître l'être humain. Et donc, ça me paraît un peu grotesque de mettre ça en face de la souveraineté de Dieu, qui est absolue. Notre liberté est réelle, et Dieu l'affirme, et la Bible l'affirme à chaque page. Nous sommes responsables, et nous serons tenus pour responsables dans nos actes. Mais notre liberté n'est pas quelque chose qui flotte dans l'air, dans l'absolu. Non, je suis conditionné par un tas de choses, par mon éducation, par ce que j'ai vécu, peut-être par mes gènes, que sais-je. Il y a beaucoup de choses qui font que mes décisions ne sont pas libres dans l'absolu. Mais j'ai une réelle liberté qui est limitée, qui est humaine, qui est à mon échelle. Et là, je serai tenu pour responsable. Et je crois que la souveraineté de Dieu, elle englobe ma liberté. De sorte que Dieu pourra me demander des comptes. Et pour autant, je n'échappe pas à sa souveraineté. Mes actes s'inscrivent dedans. Je ne pourrais pas dire au jugement dernier, c'est toi qui m'as poussé. Je n'ai jamais été une marionnette. Jamais. Je suis responsable, mais à mon niveau. Ni plus, ni moins. Et je vois donc de cette manière-là que la réponse des hommes qui leur appartient s'inscrit d'une certaine manière qui reste quelque peu mystérieuse dans la souveraineté de Dieu. Et nous le savons d'ailleurs. L'Écriture dit, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Et qui nous dit aussi, la foi est un don de Dieu. Et ainsi de suite. Je n'ai pas besoin d'insister. Donc je crois qu'il faut affirmer ces trois choses qui entrent dans ce débat de l'incrédulité. Premièrement, c'est quelque chose qui prolonge en quelque sorte ce que nous voyons tout au long de l'histoire du salut. L'incrédulité n'est pas nouvelle. Deuxièmement, il y a cet endurcissement. Les hommes font du mal, ils pêchent, et en cela, ils s'éloignent de Dieu, et cela leur ajoute un endurcissement. Ils s'endurcissent peu à peu. Et plus ils s'enfoncent dans le mal, et plus ils s'endurcissent, et cela contribue aussi à cette logique. Et puis, le dernier point sur lequel j'ai longuement parlé, cet aspect que, finalement, cette incrédulité elle-même s'insère dans le plan de Dieu. Alors, il est temps pour moi de finir. Je voudrais juste ajouter trois petites remarques pratiques qui me semblent découler de ce que nous avons vu. Premièrement, je crois que ce texte nous prévient. Vous et moi, si vous êtes des croyants, nous sommes appelés à répandre la bonne nouvelle autour de nous, à devenir à notre niveau, là où Dieu nous a placés, des porte-paroles de Dieu. Nous sommes tous appelés à ça. Si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas fidèles à ce qu'il nous a demandé. Et en le faisant, nous devons nous attendre à rencontrer surtout de l'incrédulité. Et il ne faut pas que ça nous décourage. C'est normal dans ce monde détraqué. C'est la réaction normale. Et ce n'est pas nécessairement de votre faute. Jésus-Christ était là, un homme attirant, à 2000 ans de distance, on le sent en lisant les textes, qu'il devait être chouette d'être avec Jésus. Un homme qui n'a jamais fait de tort à personne, qui n'a jamais mal parlé, un homme qui a toujours trouvé les bonnes paroles, qui est toujours très à propos, qui a parlé comme personne d'autre, qui a prêché comme jamais personne n'a pu le faire après. Un homme qui a fait des miracles extraordinaires. Et cet homme-là, il rencontre l'incrédulité. À combien plus forte raison la rencontrerons-nous ? Il ne faut pas être surpris, il ne faut pas être dévasté. C'est ce à quoi il faut s'attendre. Deuxièmement, je crois que néanmoins, ce texte doit nous pousser à faire vraiment de notre mieux quand nous sommes en train de parler des choses de la foi, évangéliser. Ne le faisons jamais à la légère, jamais. Ne le faisons jamais par-dessus la jambe, parce que il s'agit d'un acte de grande gravité. Je vais vous citer un texte de Paul qui dit aux Corinthiens et qui me semble paraître dans une nouvelle lumière, à la lumière de notre texte, qui dit « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut, comme parmi ceux qui vont à leur perte. Pour les uns, une odeur de mort qui mène à la mort, pour les autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Qui est capable d'une telle mission ?» Voyez-vous ? Quand nous annonçons l'Évangile, quand nous mettons les gens devant ce choix, fatalement, nous le mettons en mouvement. Vous savez, il y a deux mouvements. Nous avons déjà vu, je ne vous dis rien de nouveau là. Le premier mouvement, c'est le cercle vertueux. C'est la mise en pratique de la parole. Si vous croyez ce que la parole vous dit, et si vous le mettez en pratique, vous enclenchez un cercle vertueux. Parce que vous allez recevoir de nouvelles lumières en mettant en pratique. Et ces nouvelles lumières vont vous permettre de mieux mettre en pratique ce que vous avez compris. C'est un mouvement qui vous tire vers le haut. Il y a un deuxième mouvement, celui que nous avons vu aujourd'hui, c'est le mouvement qui vous tire vers le fond. C'est le mouvement de l'endurcissement. Quand vous dites non, vous vous endurcissez. Et donc, si vous mettez des gens devant le choix, vous les mettez en mouvement, soit vers le haut, soit vers le bas. Il n'y a pas de neutre. Et c'est ça qui rend cette chose grave. Parce que quand vous quittez les gens, après les avoir mis face à leur responsabilité, face à l'Évangile, ils sont dans un état meilleur ou pire. Fatalement. Nous sommes odeur de vie pour les uns, et odeur de mort pour les autres. Ce qui rend cette tâche aussi délicate. Et c'est pour ça que je dis, il faut vraiment que nous donnions de notre meilleur lorsque nous le faisons. Ne jamais faire partie de la jambe. Jamais. Et puis, un dernier point, et là je m'adresse plutôt aux non-croyants, je ne sais pas s'il y en a ici, mais s'il y en a, j'ai aussi quelque chose à vous dire, à vous. Parce que ce que nous avons vu devrait vous inciter à une grande prudence. Si l'Évangile ne vous laisse pas indifférent, s'il y a quelque chose que ça fait vibrer en vous, si vous vous sentez attiré vers Jésus, ne restez pas dans votre armure. Je vous implore, ouvrez la porte. Laissez l'esprit souffler. L'Épître aux Hébreux dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, parce que le risque, c'est l'endurcissement. Parce que si vous dites non, ou si vous dites plus tard, vous vous abîmez un peu, vous vous endurcissez un peu. Vous entendez les frapper à la porte et vous dites non, j'ai pas le temps. Et bien la prochaine fois que ça frappe, vous aurez peut-être un peu plus de mal à écouter, à l'entendre. Et la troisième fois, encore moins, et la quatrième, vous ne l'entendez plus, et la cinquième, la porte est fermée. Faites attention. Il y a cette mécanique redoutable de l'endurcissement qu'il ne faut pas méconnaître. Si vous vous endurcissez, si vous dites non, il viendra un moment où vous franchirez le Rubicon, sans peut-être le savoir, où Dieu vous endurcira. Si aujourd'hui il vous appelle, ne le faites pas attendre, ouvrez-lui la porte, parce que demain, on ne sait pas. Si je voyais un miracle, alors je croirais, me disait mon technicien Paul. Ah mon pauvre Paul, c'est pas si simple. Pour que tu puisses croire, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer. Il faut que Dieu te choisisse, il faut que t'appelle, il faut qu'il te tire vers lui, il faut qu'il te fasse sortir de ce cercle vicieux de l'endurcissement, il faut qu'il te donne son esprit, qu'il t'illumine, hein, pour qu'enfin tu puisses dire oui. Non, c'est pas si simple. Si je voyais un miracle, je croirais. Pas si sûr. Mais, mon cher Paul, tu as raison sur un point. Il y a un lien entre le miracle et la foi. Mais il est un peu différent. Je dirais plutôt, si tu peux croire, c'est un miracle.